this city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres ici, on t'aime.
I take pride in the words, Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Il ne durera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche pense j'ai ouvert en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.
Jazzons l'histoire, ou quand le jazz retrouve quelques repères, une émission de Gérard Viols et Alain Vaquier réalisée par Bruno Bertrand. Empêtrés dans la guerre du Vietnam, cette année-là, les États-Unis sont troublés sur le plan intérieur. Cette année-là est une année électorale. Le président Johnson ne se représente pas après avoir succédé à John Fitzgerald Kennedy. Au cours du message sur l'état de l'Union, il fait le constat de l'enlisement dans la guerre du Vietnam et envisage des pourparlers avec le Vietnam du Nord. Il demande une augmentation de 10% des impôts pour réduire le déficit budgétaire et l'inflation. L'opinion accepte de moins en moins la guerre. Les insoumis se multiplient alors que le Viet Cong fait le siège de Kessan. La Corée du Nord, quant à elle, arraisonne un navire américain, le Pueblo, et refuse de rendre les matelots. Début février, des émeutes estudiantines en Caroline du Nord font 3 morts. Le président Johnson donne l'impression de ne pas bien maîtriser la situation. Délinquance, corruption, violence explosent. Bien qu'ayant réussi à stopper l'offensive du Tet, les forces américaines dans la péninsule indochinoise ne peuvent empêcher le bombardement de Saigon. Et le 19 février, après avoir envoyé 10 000 militaires de plus, les armées américaines reculent encore. La citadelle de Hue va tomber le 24 février. Le secrétaire d'État à la Défense démissionne le 29. Il s'agit de Robert McNamara, qui avait été nommé à ce poste par John Fitzgerald Kennedy. Les élections primaires sont lancées et Robert Kennedy, le frère de l'ancien président, annonce sa candidature. Un événement survient qui ne sera dévoilé qu'un an et demi plus tard. Il s'agit d'un massacre, le massacre de My Lai, dans le village de Song My, province du Quang Ngai. Une compagnie de GI tue plusieurs centaines de personnes civiles, enfants et femmes comprises. Ce sera un scandale international et Noam Chomsky, le philosophe, parlera de génocide. Le général en chef des forces armées au Vietnam, le général Westmoreland, est limogé et il est remplacé par le général Abrams. Le 28 mars, au cours d'une manifestation menée par Martin Luther King, un participant est tué. La violence monte encore d'un cran. La lutte pour les droits civiques se poursuit et les conflits sont au rendez-vous. Le 3 avril de cette année-là, Martin Luther King fait un discours étrangement prémonitoire. Voici ce qu'il dit pour ceux qui ne comprendraient pas par la suite son discours. « Comme tout un chacun, je voudrais vivre longtemps. Mais pour moi maintenant, cela n'a plus d'importance. » Je ne veux que respecter la volonté de Dieu. Et Dieu m'a permis de monter au sommet de la montagne et j'ai vu la terre promise. Peut-être que je ne viendrai pas avec vous là-bas, mais je veux que vous le sachiez ce soir, que nous, en tant que peuple, nous allons atteindre la terre promise. Voilà ce qu'il déclarait ce soir-là.
Like anybody, I would like to live a long life, longevity. Has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. Yeah. And He's allowed me to go up to the mountain. Go ahead. And I've looked over. Okay. And I've seen the promised land. Yeah. I may not get there with you, but I want you to know tonight.
Ce fut le dernier discours de Martin Luther King. Quelques heures plus tard, dans l'après-midi du 4 avril 1968, son destin allait croiser la ligne de mire d'un tireur d'élite.
Nous avions prévu de dîner chez moi et après nous devions aller à l'église, assister à une autre réunion. Nous ne l'avons pas fait, ni le dîner, ni la réunion. Nous avons reçu un appel téléphonique disant que le repas n'était pas encore prêt. Donc on s'amusait comme des gosses dans la cour, on jouait au combat à cheval. Cela se passait une demi-heure avant son assassinat.
Nous nous battions avec des coussins. Il jouait comme un enfant. Et puis il est allé se changer dans sa chambre pour le dîner.
Il a salué encore quelques gens et quelqu'un lui dit « Il va faire froid ce soir, prends ton manteau ». Abernathy se passait de l'aftershave et Martin lui a crié « Ramène-moi mon manteau ».
J'ai jeté son manteau sur mon épaule. Le docteur King s'est penché par-dessus la balustrade et m'a dit « Ne l'abîme pas, j'en ai encore besoin ». Et juste après, j'ai entendu le coup de feu.
Martin était là et moi aussi. Il était penché par-dessus la balustrade. J'ai dit « Remuez-vous les mecs, allons-y ». J'avais à peine fait 4 ou 5 pas que j'ai entendu le coup partir.
J'ai pensé que c'était un raté d'allumage. J'ai été surpris de voir que Martin Luther King était tombé par terre. J'ai d'abord cru que c'était un jeu, parce que quelques minutes auparavant, il était tellement heureux.
Je n'arrêtais pas de secouer la tête pour me réveiller de ce cauchemar.
J'ai monté l'escalier 4 à 4 et j'ai vu qu'il était touché. Il était couché dans une énorme mare de sang.
Voilà, avec les témoignages, les conditions de son assassinat, avec les témoignages de ses proches collaborateurs. Alors, son assassin, James Earl Ray, sera bien arrêté quelques temps plus tard, après l'enquête. Et nous allons écouter les conditions dans lesquelles cette arrestation s'est faite, ainsi que les propos de Jesse Jackson, le pasteur, proche compagnon de route de Martin Luther King, et sa version de l'assassinat de Martin Luther King.
19 juillet 1968, James Earl Ray est ramené en avion aux États-Unis alors qu'il avait fui après avoir assassiné le pasteur Martin Luther King le 4 avril 1968 à Memphis. Ces images inédites retrouvées dans le Tennessee ont été publiées sur le site internet de la BBC. Dans cette vidéo, le shérif Bill Morris lie à James Earl Ray ses droits. On lui enfile ensuite un gilet pare-balles pour éviter qu'il ne soit tué avant son procès, comme l'a été l'assassin de John Kennedy, Lee Harvey Oswald. La vidéo montre aussi son arrivée à la prison de Shelby, où il est examiné par un docteur. Une chose dont je suis sûr aujourd'hui, même si je l'étais déjà avant, c'est que James Earl Ray n'était qu'un rouage dans une grande orchestration. Il n'a pas agi seul. Je suis convaincu que James Earl Ray faisait partie d'une conspiration bien plus grande et je crois que notre gouvernement était très impliqué dans l'assassinat de M. King. James Earl Ray, franc-tireur, avait avoué le meurtre avant de se rétracter. Il a finalement plaidé coupable pour éviter la peine de mort et a été condamné à 99 ans de prison. Il est décédé en 1998 des suites d'une hépatite C.
Les propos et les accusations de Jesse Jackson sont très graves puisqu'il remet en cause l'État même, le gouvernement même des États-Unis dans l'assassinat de Martin Luther King. Alors, il est vrai qu'à ce moment-là, cette année-là, le conflit entre la revendication des droits civiques et l'État de l'Union est très, très, très aigu et que peut-être que la disparition de Martin Luther King peut arranger un certain nombre de gens. Il reste que cet assassinat aura une portée nationale et internationale, faisant de Martin Luther King une sorte d'icône à l'image d'un Gandhi pour les États-Unis. Et donc, je pense que sa disparition créera une onde de choc probablement plus importante et plus forte que ne l'aurait fait la suite de sa lutte pour les droits civiques. Alors, 40 ans plus tard, dans un reportage, on mesure l'héritage et ce qui reste, et il reste beaucoup, du combat de Martin Luther King.
Ce jour d'août 1963, à Washington, devant une foule immense, Martin Luther King entre dans la légende.
J'ai fait un rêve. Que mes quatre enfants vivent un jour dans une nation où ils ne seront pas jugés sur la couleur de leur peau, mais sur leur valeur personnelle. J'ai un rêve aujourd'hui.
Aujourd'hui, à Harlem, 40 ans après son assassinat, les paroissiens de cette église célèbrent sa mémoire.
Ils ont été capables de tuer le rêveur, mais ils ne peuvent pas tuer le rêve.
Un rêve ranimé par l'avancée fulgurante de Barack Obama, pour le pasteur et ses ouailles, le passé s'incarne enfin dans le présent.
Le docteur King a rêvé. Et il a permis à de jeunes gens comme Barack Obama d'agir efficacement pour sensibiliser les foules.
Si Obama devient président, ça veut dire que mon fils pourrait être président.
Alors ce matin, ce n'est plus un rêveur, mais un candidat aguerri devant une foule noire et blanc réunie qui revendique l'héritage du Dr King.
Le Dr King avait compris que la bataille pour plus de justice économique, pour plus de justice entre les races, faisait partie d'un combat plus large, pour la liberté, la dignité et l'humanité.
Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody of it is worth.
All Along the Watchtower, Jimi Hendrix, guitare électrique et voix. À la batterie, il y avait Mitch Mitchell et à la guitare acoustique, Dave Mason. Enregistré le 21 janvier 1968. Jimi Hendrix incarne bien ce mouvement de la jeunesse dans ces années-là aux États-Unis. Alors, après l'assassinat de Martin Luther King, les émeutes raciales vont s'amplifier, notamment à Newark. Et les troupes fédérales devront intervenir. Le 11 avril, une loi interdit la discrimination dans le logement, que ce soit pour la vente ou pour la location. L'université de Columbia, quant à elle, est fermée après une occupation étudiante massive le 24 avril. Au mois de mai, des pourparlers avec le Vietnam du Nord semblent acquis et les négociations vont commencer à Paris, en pleine émeute du quartier latin. C'est-à-dire que le quartier latin est en effervescence et rue Kléber, eh bien le Vietnam et les États-Unis négocient. Robert Francis Kennedy, lui, fait campagne et il est en passe de gagner les primaires démocrates. Et le 5 juin, à Los Angeles, à l'hôtel Ambassador, il remercie tout le monde. « Merci à tous », dit-il, « et maintenant nous allons gagner Chicago ». Et il fait le signe de la victoire.
En 1968, un assassinat ébranle l'Amérique qui a toutes les apparences d'une opération sous hypnose. Selon certains, c'est l'œuvre d'un assassin programmé, hypnotisé par la CIA.
My thanks to all of you, and now it's on to Chicago and let's win there.
Le 4 juin 1968, jour d'élection pour les primaires démocrates. Il est minuit et le sénateur Robert Kennedy prononce le discours de la victoire à l'hôtel Ambassador. Il sort par la cuisine bondée. Soudain, des coups de feu éclatent. Vingt-six heures plus tard, Robert Kennedy est déclaré mort. Tandis que le tireur, Seran Bishara Seran, 24 ans, est emmené, plusieurs témoins remarquent qu'il a l'air en transe.
Il avait l'air complètement hébété. Il ne se rappelait aucun détail de ce qu'il avait fait et était incapable d'expliquer son geste. On lui a dit ce qu'il avait fait et il n'en revenait pas.
L'apparente amnésie de Seran intrigue les théoriciens du complot. Ils sont convaincus que Seran est un assassin programmé, hypnotisé par la CIA pour assassiner Robert Kennedy, le résultat de 20 ans de recherche sur la manipulation mentale. Mais pourquoi la CIA voudrait-elle la mort de Robert Kennedy? L'avocat de Seran avance trois mobiles possibles. D'abord, le Vietnam.
Bob Kennedy s'opposait catégoriquement à la guerre du Vietnam. La fin de la guerre serait allée à l'encontre des intérêts de certaines grandes entreprises américaines qui gagnaient des fortunes grâce à ce conflit.
Deuxième mobile, Cuba.
Bob Kennedy lui-même était parvenu à la conclusion qu'il était temps de passer un accord avec Castro et Cuba. Et ça ne le rendait pas très populaire.
Et enfin, l'assassinat de son frère.
Il allait rouvrir l'enquête sur l'assassinat de son frère. Ça rendait beaucoup de gens nerveux.
Les théoriciens du complot pensent que Seran a été hypnotisé par la CIA. Seran, sous hypnose, aurait alors brandi son pistolet, mais n'aurait pas tiré les coups de feu fatals.
C'était une vraie pagaille. C'était comme si Seran avait été programmé pour distraire toutes les personnes qui étaient là afin de permettre à quelqu'un de faire ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire tuer Kennedy en lui tirant une balle à l'arrière de la tête.
Le rapport balistique semble confirmer cette thèse. Kennedy a été touché par trois balles, toutes tirées par derrière. Le coup fatal a été tiré à quelques centimètres de son crâne. Or, à aucun moment, Seran ne s'est trouvé aussi près.
Tous les témoignages le placent à au moins un mètre de Bob Kennedy, face à lui.
Un autre détail vient étayer la thèse du complot, le nombre de balles tirées. Kennedy est touché trois fois. Cinq autres personnes sont également blessées. Or, on relève 7 autres impacts de balles dans les portes et le plafond, ce qui indique qu'au moins 10 balles ont été tirées. Le pistolet de Seran, un calibre 22, ne contient que 8 balles. Pour en tirer plus de 8, il fallait donc une deuxième arme.
Après cet assassinat qui apporte la preuve supplémentaire de la violence latente aux États-Unis et surtout de l'existence de lobbies mi-légaux, mi-délinquants qui minent la société américaine, les candidats à la présidentielle seront connus fin août. Richard Nixon pour les Républicains et Hubert Humphrey pour les Démocrates. Richard Nixon sera élu à la fin de l'année. Il devra se démettre après sa réélection en 1973 à cause de l'affaire du Watergate. Un musicien a émergé en Afrique du Sud cette année-là. Il s'agit d'un musicien qui a un nom, qui a un surnom, on va dire, américain. Il s'agit de Dollar Band. Et cette année-là, eh bien, il change de nom et il va s'appeler Abdullah Ibrahim. Voilà, le jazz sud-africain est né, il existe déjà, mais avec Abdullah Ibrahim, alias Dollar Brand, il trouve son héros qui va le rendre, qui va lui donner une reconnaissance internationale. Ça s'appelle Cape Town Fringe. C'est une composition de Dollar Brand, donc alias, je ne sais pas dans quel sens on pourrait le dire, Abdullah Ibrahim. Arrangé par Abdullah Ibrahim lui-même avec donc sa formation enregistrée en 1968. Eh bien, non cette année-là, mais une année, 6 mois plus tard, le même Jimi Hendrix que nous entendions tout à l'heure allait faire un clin d'œil. C'était à Woodstock et ça marque bien l'atmosphère de cette époque et le peu de respect que pouvait avoir la communauté noire à l'égard du gouvernement américain. Star Spangled Banner, autrement dit l'hymne américain revisité totalement, un peu déstructuré par instant, par Jimi Hendrix et sa formation, donc quelques mois après la fin de 1968, mais qui marque bien un certain climat, un certain état d'esprit dans la société américaine et peut-être sur l'ensemble du monde entier. Voilà, demain, nous reviendrons sur ce que représentent les événements de mai sur l'ensemble de la planète. Mais en attendant, à demain, et c'est une autre histoire.
This city, of all cities, knows the dream of freedom.
Toi qui souffres, ici, on t'aime.
I take pride in the words,
Ich bin ein Berliner.
I have a dream.
Ce ne sera pas toujours cette guerre.
J'invite tous les militaires français, où qu'ils se trouvent, à se mettre en rapport avec moi.
François Mitterrand l'affirme, il est en pleine santé.
Attendez que la gauche porte the wear en 2012.
I said I want to fuck her.
Que des mots pas très gentils.
Et tout se résume à aujourd'hui.